Voor de Flosby première, het Père Marie-Dominique Philippe, le 16 mars l'an 2000, à Saint-Jodard.
Pourquoi dit-on que la lumière est la qualité ultime du monde physique? La lumière, qui actuellement est particulièrement lumineux, c'est la qualité de la lumière. C'est vrai que, vous savez bien, je vous l'ai déjà dit, c'est pas à vous, c'est l'année précédente, à vos frères. La lumière fait le joint entre le monde physique et le monde spirituel, c'est très curieux. Cette parole d'Aristote qu'il faut jamais oublier, quand il parle de l'intellect agent, il dit os fos, comme os, comme la lumière. On a tous au-dedans de nous une source de lumière, c'est l'intellect agent, et il rend tout lumineux. Et sûrement que c'est l'intellect agent qui permet de passer dans les différents degrés d'intelligibilité pour arriver au degré ultime, l'être, et en définitive Dieu. C'est très mystérieux, la lumière. Il n'y a qu'à demander à votre Père Maître, puisque il s'acharne sur la lumière. Et de comprendre que la lumière est quelque chose de très intéressant, sûrement. L'horizon du monde physique et du monde spirituel. Les néoplatoniciens disaient que c'était l'homme, et au fond, en réalité, c'est la lumière qui est vraiment l'horizon des deux. On passe d'un monde à l'autre monde. On passe de l'actualité ultime, la lumière. Toutes les autres qualités sont vus, le monde physique est vu par la lumière, qu'il n'y a plus de lumière. C'est pour ça qu'Aristote disait que c'est l'acte du diaphane qui permettait de voir tout. Le diaphane étant le métaxus qui permet l'intermédiaire entre les réalités physiques et l'œil. Alors, c'est sûr que le lien entre la lumière et la substance est une chose très difficile à voir, parce que je parle en métaphysicien ici. Je parle du point de vue métaphysique par rapport aux autres qualités qu'on a vues. Les autres qualités qu'on a vues, c'est deux qualités extrêmes, la figura et l'habitus. Puis, dans la figura, l'analyse de la figura implique des qualités sensibles. Et dans les qualités sensibles, les qualités des sensibles propres et des sensibles communs. Tout cela se tient dans la lumière de la substance. On peut, par rapport à la figura, par rapport aux qualités sensibles, parler de ce qui les actue et qui me permet de les voir. Quand on a la vue qui diminue, j'en ai expérience, on est très dépendant de la lumière. La lumière est est nécessaire pour qu'on puisse voir. Avant, on ne s'en occupait pas beaucoup, tandis qu'on était obligé de s'en occuper, parce qu'autrement, on ne voit rien. Donc, on est très dépendant de la lumière. Et on voit combien la lumière actue et permet de voir. Je crois qu'il faut partir de là, parce que c'est ça qui va faire l'unité de la vision. C'est vrai, mon unité de la vision, c'est bien de la lumière. Je vois, et puis après, je suis dans le noir et je ne vois plus. Il n'y a plus de lumière, d'obscurité. Et je marche à tâtons. Oui, marcher à tâtons, c'est, je peux très bien la manière dont on marche. C'est-à-dire, à la place de voir en avant, on voit immédiatement ce qui est sous vos pieds. Et ce qui est directement sous vos pieds est vu. La lumière est donc, pour moi, le point qui permet de faire l'unité. La lumière n'est pas fin. Elle est ce qui permet de maintenir l'unité, ce qui fait l'unité dans le monde physique. Elle est donc ultime dans le monde des choses visibles, pas des choses tangibles, mais des choses visibles, de la vue. Et la vue va plus loin, au point de vue synthèse, que le toucher. Le toucher, il est pour l'analyse. La vue fait la synthèse. Et la lumière permet à cette synthèse d'exister. Ce par quoi la synthèse existe. Ce par quoi. Elle est donc ultime, mais elle n'est pas qu'au final. C'est ce qu'il y a de très curieux et très particulier dans la lumière. Elle est du côté d'une cause formelle exemplaire. D'une certaine manière, elle est extérieure et elle fait l'unité. Pas de l'intérieur et de l'extérieur. Elle vient actuer. Alors, d'une certaine façon, parce qu'elle vient actuer, elle serait cause finale, mais elle actue à sa manière qui n'est pas actuée par le bien, qui est par la lumière. Donc, par le point de vue de la forme, de ce qui détermine. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle est ce qui unifie notre monde physique et ce qui, par le fait même, est ce qui me permet de m'élever dans le monde spirituel. Vous voyez, je passe de la lumière, quand Aristote dit, comme une lumière, hausse, fausse. Elle est comme la lumière. Elle joue le rôle, l'intellect agent joue le rôle de la lumière au point de vue spirituel. Si l'intellect agent s'éteint, si l'intellect agent n'est pas là, on retombe dans l'obscurité. Et on n'a plus cette perspicacité. Alors, la lumière est bien qualité de la qualité dans l'ordre de la connaissance. Pas dans l'ordre réel, existentiel, mais dans l'ordre de la connaissance. C'est dans ce sens-là qu'elle est cause exemplaire. Alors, est-ce que je dois en parler au point de vue de ce que nous voyons, c'est-à-dire au niveau des catégories? Je ne crois pas. Je parlerai de la lumière beaucoup plus quand on verra l'acte, la cause finale. Et on essaiera de comprendre comment la cause finale peut être dans un monde physique par la lumière. C'est le reflet de la cause finale ou la manifestation de la cause finale. Mais ce n'est pas la cause finale, mais la manifestation. Et c'est pour ça qu'elle joue un rôle très important dans la philosophie néoplatonicienne. Et elle devrait jouer un rôle très important dans la phénoménologie aussi. Je pourrais faire une description assez artistique de la lumière et graduer la manifestation par la lumière. Alors, si je regarde le rapport de la lumière avec la substance, c'est pour essayer de voir quel être a la lumière. Je dis que la lumière est du côté de la connaissance, donc du côté de l'intelligibilité et du côté de ce qui est visible, et non pas du côté existentiel. Mais elle est réelle, cependant, la lumière. Elle est réelle, mais elle n'est pas fin. Elle est réelle, c'est sûr. Le feu a comme propriété d'être lumineux. Et il est lumineux. Le feu éclaire. Alors, le feu est un élément final du monde physique. Le feu est l'élément le plus actué dans le monde physique. Et il a comme propriété la lumière dans le monde physique. Et par cette propriété, il peut atteindre le monde spirituel. Je crois que par rapport à ce que nous disons, la lumière n'est pas une catégorie. Je ne dis pas de l'homme qu'il est lumineux. Vous pouvez le dire spirituellement, il est lumineux. Vous dites, alors théologiquement, pour les corps glorieux, nos corps qui ne sont pas précisément lumineux, deviendront lumineux. Ce sera un beau, une communauté de corps glorieux, de corps lumineux. C'est, vous voyez, une qualité physique qu'on transporte dans le monde spirituel, analogiquement. Alors, l'analogie est-elle vraie ou métaphorique? C'est là où c'est très délicat. Très délicat à voir si la lumière est vraiment une analogie qui me permet de passer du monde physique au monde spirituel. C'est, je crois, l'analogie la plus spirituelle du monde physique. Et elle reste liée au monde physique. La lumière est premièrement pour moi la lumière sensible, la lumière de l'œil. Et je crois, si on fait une petite topique historique, on verra que la lumière est attachée à l'œil. Il jette des lumières. Il a un regard lumineux. Il y a des regards pernés, des regards lumineux. La lumière chez Platon, chez Plotin, c'est rattaché à cette vision. Alors, je crois que c'est vraiment le premier analogué est physique. J'ai une connaissance de la lumière, une connaissance souvent artistique. Les peintres ont un sens très fort de la lumière. Et parmi les artistes, peintres, on voit très fort ceux qui sont séduits. Voyez, la séduction. La lumière séduit. Elle n'attire pas comme la bonté. C'est beaucoup plus de l'ordre de la séduction. Donc de l'ordre de la connaissance. Mais son premier analogué reste sensible. Et on le transporte. Alors là, métaphoriquement, proprement dans le monde physique, dans le monde spirituel, on est juste à la limite de l'analogie propre et de l'analogie métaphorique. Il y a une tentation permanente à l'analogie propre, je crois. Mais alors, je tomberai un peu dans le néoplatonisme. Il y a aussi cette incapacité de dire proprement la lumière en restant dans une analogie métaphorique. Elle est plus que ça. Oui. Alors, on pourrait dire, oui, que la lumière rend spirituel le monde physique. Mais en rendant spirituel le monde physique, elle perd son caractère spirituel. Et c'est ça qui est très curieux. Mais elle le spiritualise. Et alors, on transporte, quand on dit au Saint, quand on demande dans l'ordre théologique, quand on demande au Saint-Esprit de nous illuminer, c'est quelque chose de propre. C'est pas métaphorique. Vraiment, de faire que ce que l'on dit, ce que l'on connaît, soit illuminé de l'intérieur et pas purement de l'extérieur. Là, c'est pour ça que je vous dis, on est devant un terme extrêmement difficile à préciser. Peut-être qu'il ne peut pas se préciser plus. Un passage du physique au spirituel constant. Si je dis que c'est métaphorique, je vois que ce n'est pas suffisant. Si je dis que c'est une analogie propre, je crains que ce soit trop. J'avais essayé de faire une preuve de l'existence de Dieu par la lumière. Il y a l'être, et pour nous l'être, il est lumineux. Il y a les vers lumineux. L'être est lumineux. Donc il doit. Il y a une espèce de manifestation. C'est sans doute par la manifestation qu'on irait le plus loin. Et c'est très difficile de préciser ce que c'est que la manifestation. Donc c'est là où, au fond, on verrait qu'une phénoménologie, pour certains domaines, peut peut-être aller plus loin qu'une pure métaphysique. Mais pour certains domaines, et les rapports qu'il y a entre la lumière et l'être, entre la lumière et la bonté, la lumière n'est ni l'être, ni la bonté. Elle est elle-même lumière. Elle est propriété au monde physique, propriété du feu, de ce qu'il y a de plus subtil, plus acte. Je ne veux pas aller plus loin, mais c'est un domaine dans lequel on doit chercher, voir exactement le domaine propre de la lumière. Nous étions arrivés à réfléchir sur la qualité, la puissance. Et je crois que c'est très important, parce que là aussi, la substance a été, dans le monde philosophique, la recherche de la puissance, a été un moyen ou une séduction de passer au domaine de l'ontologisme, au domaine platonicien, en confondant puissance et substance. Vous voyez, il y a toute une théorie qui existe chez des thomistes de dire que l'intelligence est une faculté telle qu'elle est une substance. Vous avez Descartes, qui n'est pas thomiste, mais qui le dit expressément, vous avez des substances spirituelles et des substances matérielles. Le monde se divise en deux. Le monde substance physique, le monde physique que nous voyons, que nous constatons autour de nous, et puis, intérieurement, nous avons une substance spirituelle qui est notre intelligence, notre esprit. Mais la notion de l'esprit qui, pour nous, relève de la puissance intellectuelle, mon esprit n'est pas substantiel. Mon esprit est esprit par l'intelligence. Et donc, par cette capacité propre qui est l'intelligence. Mais mon intelligence n'est pas mon âme. Mon âme n'est pas entièrement et totalement spirituelle, puisqu'elle informe le corps. Elle a besoin d'informer le corps. Et donc, elle garde toujours un lien vis-à-vis du corps. Mon âme est créée dans mon corps. Mon âme, même séparée de mon corps, reste en relation avec mon corps. Et c'est pour ça que la résurrection n'est pas un phénomène totalement artificiel. Mais c'est comme l'appel profond de mon âme. Mon âme appelle la glorification de mon corps. Et pour le philosophe, alors, ça demeure comme un désir, comme un appel, pas plus, qui n'est pas achevé ici sur terre, qui est en attente. Et c'est vrai, mon âme est en attente de la résurrection du corps, mon âme séparée. Elle n'est pas dans une stabilité parfaite. Parce que l'union de l'âme et du corps est substantielle. Donc la brisure de cette union est une brisure radicale. Mon âme séparée de mon corps n'est pas dans un état de perfection, dans un état normal. Elle est dans un état qui n'est pas normal. Et le philosophe parlera de la résurrection comme un mythe qui correspond à l'appel profond de l'âme. Il ne peut pas l'affirmer, puisqu'il n'a pas l'expérience, mais il peut le constater dans les différents mythes religieux et voir que la résurrection du corps est quelque chose qui est très enraciné dans la réalité du corps. Il faut donc aborder la question de la puissance avec une grande attention, parce qu'il y a une véritable séduction de dire que mon intelligence, c'est ma substance. C'est la séduction de Descartes. Il y a une séduction. Il y a une séduction qui revient toujours. Alors, on n'a pas une âme spirituelle, on a une âme végétative, une vague temporelle, et puis il y a l'esprit. Et l'esprit est au-delà de la catégorie puissance. Il est quelque chose qui est comme une substance. Cette vision n'est pas juste. Je crois que la vision d'Aristote, qui fait que je pars de l'expérience, je vois que je connais, je progresse dans ma connaissance, j'ai un progrès, un devenir. Les étudiants de seconde année suivent le cours métaphysique avec plus facilité que les étudiants de première année. Les étudiants de première année suivent difficilement un cours de métaphysique. On ne comprend pas tout. Et c'est normal. Ce qui montre qu'il y a un progrès. On devient intelligent. Il faut toujours se rappeler ça. On devient intelligent. C'est pour ça que mesurer l'intelligence d'un novice, c'est pas juste. Son intelligence est en devenir. Il y a un devenir. Ça, je constate qu'il y a un devenir. Le devenir intellectuel, je crois que je ne peux pas le nier. Nous l'avons tous expérimenté. Je me souviens très bien, le premier cours de métaphysique que j'ai suivi chez les Dominicains, à la fin du cours, j'ai dit au professeur, je n'ai rien compris. Rien du tout. Et il m'a dit, tout simplement, tu crois que je fais le cours pour toi ? Non. Je le fais pour la troisième année. Alors, première année, seconde année, était dans un état d'infériorité. Et c'est vrai, on fait le cours pour la troisième année. Et les autres comprennent en partie, de temps en temps, donner des exemples qu'ils comprennent pour mettre les deux pieds sur terre. Mais dès qu'on s'élève, ils ne comprennent plus. Alors, heureusement que les premières années suivent les cours avec des gens de la troisième année, parce que ceux de la troisième année comprennent et montrent à la première année que ce n'est pas trop bête, que le cours a une certaine intelligence. Ils comprennent. Ils servent. Ils sont des poteaux indicateurs et lumineux pour la première année. Parce que si la première année n'était que première année, tout sortira en disant « rien compris ». Et alors, ça, ça serait une manière de confirmer que le cours était inintelligible. Inintelligible pour la première année, intelligible pour la troisième année. Donc, il y a un devenir. Si un devenir intellectuel, l'intelligence n'est pas substance. La substance est indivisible. Elle n'est pas une possibilité, elle n'a une possibilité de croître, comme les accidents peuvent croître. Tous les accidents ont une croissance. Ou une croissance objective ou une croissance subjective. Et ordinairement, les deux choses vont ensemble. La croissance subjective, ce sont les racines. Et les cèdres du Liban ont en racine la hauteur qu'ils ont au-dessus de la terre. Alors, on est un homme équilibré, comme les cèdres du Liban. L'équilibre, c'est lorsque l'objectivité augmente et la subjectivité augmente aussi. Donc, l'intelligence étant un principe qui me permet de connaître, elle est un principe accidentel qui peut croître, qui peut augmenter. Si elle était substance, elle ne le pourrait pas. Et c'est du reste ce qui arrive chez Platon. Il n'y a pas d'enseignement chez Platon. On ne peut pas enseigner. On peut simplement rappeler ce qu'on connaît déjà. Quand on regarde le Ménon, c'est vraiment cela. Rappeler ce qu'on connaît déjà. Vous connaissez tout. Et le professeur est là pour vous montrer que vous connaissez tout. En vous réanimant, en quelque sorte. En réactivant ce, votre connaissance qui est endormie. Tandis que pour nous, pour la position aristotélicienne, l'expérience me permet de grandir dans ma connaissance. Ce n'est pas me rappeler. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Je connais de plus en plus la réalité et moi-même. La réalité, c'est moi. Je ne me connais pas tout de suite. Si mon intelligence était substantielle, je me connaîtrais tout de suite. Descartes a cet immense avantage qu'il s'est connu tout de suite et qu'il n'a pas progressé. Tout de suite, il a connu tout. Ce n'est substance. C'est important de comprendre qu'il y a en nous des capacités d'opérer. Au point de vue spirituel, l'intelligence et la volonté. Au point de vue matériel, des capacités de travailler. Des capacités de servir des outils. Les arts particuliers, l'art artisanal, ou mes mains, servent à modeler de la terre. Mes mains servent à faire a aidé à réaliser certaines œuvres matérielles en les transformant. Il y a donc dans un petit être humain des quantités de capacités. Et l'éducation consiste à voir, à ordonner ses capacités pour qu'elles ne se neutralisent pas et pour qu'elles s'ordonnent et qu'on puisse en développer le plus possible. Développer les puissances de l'intelligence pure, développer les capacités d'une intelligence pratique, artistique, morale, développer les capacités au point de vue temporel. Cela existe en moi. Je peux les exploiter, ou plus exactement, les manifester par le point de vue de la phénoménologie. Montrer que je puis, par ces capacités, développer en moi l'artiste. Et que j'aurai par là un habitus qui viendra perfectionner ses capacités. C'est cela qui est très curieux dans ces puissances, c'est qu'on est en présence de qualités fondamentales qui ont un rôle quasi substantiel comme fondement. Quasi substantielle, c'est-à-dire ces facultés touchent quelque chose de fondamental en moi. Et c'est parce qu'elles touchent quelque chose de fondamental en moi que je confonds ce fondamental avec la finalité. Et je considère que ces facultés sont alors de nouvelles puissances, de nouvelles substances. Vous voyez ? La différence entre ces puissances comme accident, c'est de pouvoir modifier, transformer une matière. C'est de pouvoir connaître, de pouvoir aimer d'une façon spirituelle. Elles sont de deux ordres, ou elles sont spirituelles, ou elles sont artistiques. Elles peuvent modifier la matière, elles peuvent modifier les individus, elles peuvent les transformer. Éducation, qui est encore un art. Et je peux même modifier ma pure intelligence par le point de vue de l'art logique. Il y a donc, au-delà des habitus, les facultés. Vous voyez ? On a vu précédemment ce qu'était l'habitus. Et j'ai dit que c'était la qualité de la qualité. Si c'est la qualité de la qualité, tous les habitus viennent perfectionner quelque chose de fondamental. Et ce quelque chose de fondamental, c'est ma capacité d'opérer. L'intelligence, la volonté, la prudence, diriger toutes mes activités morales, diriger toutes mes activités artistiques. On voit la complexité, là, par le point de vue des puissances, la complexité qui est dans l'homme. Il n'y a pas que l'habitus, que la figura et l'habitus, il y a les facultés. Et les facultés ont ce caractère particulier d'être des puissances d'énergie, d'efficacité radicale, d'être capable d'être déterminé, affiné pour aller plus loin. Mais elles sont radicalement des ressources. Alors, il y a une connaissance philosophique de ces qualités qui n'est pas du tout la connaissance phénoménologique. C'est d'étudier ces facultés dans leur rapport avec la substance, l'intelligence, la volonté, le rapport avec l'intelligence. J'ai la capacité d'une activité artistique, la poterie, la menuiserie. J'ai la faculté de pouvoir acquérir des vertus. Et avant d'acquérir la vertu, il y a un pouvoir en moi, très général, qui est la puissance d'opérer. La puissance d'opérer passionnellement, concupiscence ou irascible. Et j'ai en moi une bête sauvage, capable de prendre, de saisir sa proie, et toute espèce de proie. J'ai en moi cette capacité. J'ai une avidité du concupiscible, j'ai une avidité de l'irascible. Il faut découvrir en soi cette puissance. Et c'est une puissance instinctive, très radicale, qui a des ressources étonnantes et qui peut se réveiller tout d'un coup. On l'a endormie pendant le noviciat, ou on l'a éduquée pendant le noviciat. Il y en a qui s'endorment comme novice. Alors, ces facultés très riches, très impulsives, très instinctives, ne s'éveilleront que plus tard, tout d'un coup. Pour les racines, c'est le même. Elles n'ont pas été éduquées, elles ont été endormies. Vous savez, on endort les gens pour faire de la chirurgie. On peut endormir au point de vue d'éducation pour faire croire qu'ils sont vertueux. Ils le sont artificiellement et pas réellement. Et si je regarde dans ce regard philosophique, je sais que j'ai ces pouvoirs d'agir. La puissance au plan métaphysique, c'est un pouvoir d'agir, un pouvoir d'opérer, moralement, artistiquement. C'est donc quelque chose de très important, les puissances. Vous voyez, la figura et le point de vue des habitus, ça c'est clair. C'est net, c'est très précis. La puissance, c'est entre la substance et la figura et l'habitus. C'est le pouvoir que j'ai d'opérer.